RMC, 18h-20h, ici c'est Willy. Willy Sagnol.
Allez, 19h04, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette deuxième heure d'ici c'est Willy sur RMC. Et Jean-Louis, pour cette deuxième heure, on accueille Ludo Bragnac. Salut Ludo.
Salut les copains. Et oui, Ludo est avec nous. François Pignet est toujours là, je le précise quand
même. Merci Jean-Louis.
Ludo est là.
Non mais surtout, ouais, mais
je l'ai snobé encore une fois. Mais c'est
non, j'ai dit on accueille Ludo Bragnac. Oui. Et toi, je t'avais dit au début.
Oui, mais comme il y a des gens qui arrivent, puisque tu l'as dit aussi, il y a des gens qui nous rejoignent.
Non, mais tu crois que les gens ils viennent pour François Pignet, ils viennent pour Ludo Bragnac.
Ah oui, c'est vrai.
Eh oui. D'ailleurs, simplicité, efficacité. Tu sais, t'es l'homme de l'ombre, tu vois, t'es le mec efficace.
Et puis t'es souvent le mec qui parle à la fin, et c'est ça qui impacte les gens.
Venant d'un Messin, franchement, ça, je m'y attendais pas.
Ah oui.
Franchement,
ah,
y a pas ça. Non.
Alors, ça tombe bien que Ludo soit avec nous. Ludo,
bah, il est un peu déçu parce qu'il a pas réussi à avoir Rai.
Ah ouais.
Il arrive un tout petit peu. Rai est parti un peu vite.
La groupie, ça m'arrive jamais. Alors. Rai, par contre, là, j'aurais fait péter le selfie.
Ah ouais. Bah, écoute, il est arrivé, il a dit où est Aubragnac et tout. Je me souviens, il m'a fait rêver, etc. J'adore la Pologne.
Le pied gauche.
Vous avez tout ça, mais bon. Alors, Ludo, ça tombe bien que tu sois avec nous parce que t'es quand même l'homme du samedi soir et des matchs de Ligue 1. Donc, tu vas pouvoir nous donner ton avis sur cette dernière journée. On va s'intéresser au bas de tableau dans une seconde. On sera sur les pelouses avec nos envoyés spéciaux un peu partout. Et puis, c'est aussi soir de dernière pour certains, pour Rudy Garcia, pour Bruno Genesio, pour Jean-Louis Gasset. Ce seront les curiosités de leur rencontre ce soir. Les records également que Kylian Mbappé chasse, on en parlera donc tout à l'heure. En plus des matchs de Ligue 1, le direct, c'est reparti entre Troyes et Lens, le barrage de Ligue 2, Jordan Olivier.
Oui, depuis 2 minutes en seconde période, Jean-Louis, un partout, c'est Gomis qui avait ouvert le score à la 3e pour Lens. Égalisation de Brian Pelé sur penalty. Le gardien Jean-Louis Lecal, le gardien du RC Lens, a été exclu pour des mots vraisemblablement à l'encontre de l'arbitre de la rencontre. Les Lensois qui vont donc terminer la rencontre compte à 10 contre 11. Il reste donc un peu plus de 43 minutes en seconde période. Un partout entre l'Estac et Lens.
L'aspect physique là, Willy, on en parlait avec Jordan tout à l'heure. Lens qui a joué il y a 3 jours, 120 minutes. Est-ce que forcément à un moment ils vont piocher, ou est-ce que parfois on se monte un peu la tête sur les matchs joués 3 jours et quand t'es pris par l'enjeu, bon bah t'oublies la fatigue?
Ouais, tu peux oublier la fatigue, ça n'existe pas. Oublier la fatigue, ouais. T'essaies de le dire de temps en temps à tes joueurs. C'est un peu de l'auto-persuasion. On oublie la fatigue, les gars, mais c'est la fin de saison.
Ouais.
Ils ont joué 120 minutes il y a 3 jours. Aujourd'hui, ils se retrouvent pendant au moins une mi-temps à un de moins. Ça peut être compliqué, surtout que Troyes reste sur une bonne dynamique. Ils ont fait une superbe fin de saison. Mais par contre, après qu'on soit d'accord ou pas avec le penalty pas penalty, pour moi il y avait pas penalty, mais ça c'est. Mais le gardien de Lens ne peut pas perdre ses nerfs comme il les a perdus. Il perd parce que il a envie de péter les plombs, parce que il a envie d'insulter l'arbitre. Il fout en l'air peut-être toute la saison de son club.
Ouais, c'est terrible.
Tu n'as pas le droit dans un sport collectif de péter les plombs et de pénaliser ton club. Si tu pètes les plombs quand tu perds 4-0, c'est pas grave, mais pas à ce moment-là.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est terrible. On verra si quand même les Lensois arrivent à tenir. Alors revenons à la Ligue 1 et au bas de tableau. C'est là où il y a de l'enjeu. Pour le reste, c'est plié. Alors il y a quand même des petits enjeux, c'est-à-dire finir 2 places devant ou 2 places derrière financièrement, ça change les choses. Mais en tout cas, pour les enjeux directs, il reste plus grand-chose à partir de la 16e place. Monaco, on peut considérer qu'ils sont sauvés, même s'il y a quand même l'histoire de
petits enjeux. C'est pour certains clubs 2 millions.
Oui, non, c'est pour ça que je l'ai dit. Oui, mais c'est pas comme une descente non plus. Mais effectivement, ça va être la curiosité du soir. Donc Monaco 16e est sauvé, il faudra un concours de circonstances qui perde 4-0 et que derrière ça gagne 4-0 aussi. Bon, avec 36 points a priori, c'est bon. 17e Amiens avec 35 points. Amiens qui doit s'imposer face à Guingamp pour assurer son maintien avec certitude. Tout autre cas de figure, les frères gardés derrière. Derrière c'est Caen qui est actuellement en position de barragiste à la 18e place avec 33 points. Caen doit donc s'imposer absolument et espérer qu'Amiens fasse un nul ou perd pour passer devant, mais Caen qui voudra également sécuriser son barrage en s'imposant et donc en maintenant les 2 points d'avance qu'ils ont sur Dijon. Dijon de son côté reçoit Toulouse et les Dijonais doivent gagner et espérer que Caen perde sa rencontre face à Bordeaux. Voilà pour les cas de figure, voilà pour le tableau.
C'était long, hein.
Non mais c'est long.
C'était long. Je suis perdu déjà. Je me rappelle plus ce que tu as dit déjà.
Avec ton intelligence supérieure, Willy, normalement tu devrais.
Je cherche pas à me flatter, non, ça marche pas.
Est-ce que, messieurs, une surprise est possible selon vous? Ludo, comment tu vois les choses là en bas de tableau?
Écoute, le hasard fait parfois bien les choses, mais j'ai l'impression que le calendrier est ainsi fait sur ce dernier match que ça va rester en l'état.
Ils vont tous gagner.
Bah, Amiens ouais. reçoit Guingamp.
Ouais.
Bon, on va on mettra une pièce sur Amiens quand même, les Guingampais qui sont déjà condamnés.
Alors, Jocelyn Gourvennec n'a pas apprécié les propos de Roland Courbis qui disait, enfin qui mettait en doute justement les Guingampais, leur motivation sur cette rencontre, et peut-être que ça a un effet justement de motiver les Guingampais pour qu'ils
fassent. Enfin, je pense que actuellement, par rapport à ce qui s'est passé, je pense que Guingamp ou quelqu'un qui appartient au club de Guingamp n'a pas grand chose à dire en ce moment par rapport à ce que à Caen.
Non, mais il répondait à ça. Il
ouais, mais il aurait pu s'en passer. Il aurait pu s'en passer. J'espère que les joueurs de Guingamp sont des professionnels et puis ils feront le taf.
C'est ce qu'il a dit. Caen tombe sur une équipe de Bordeaux qui en cette fin de saison est plutôt moribonde. Mm-hmm. Donc du coup, j'ai l'impression que ça va rester en l'état, que Caen.
Il peut pas y avoir la peur à un moment donné. Pour ces équipes-là, on dit dans la dernière journée, on joue sa place dans l'élite.
Dijon a raté le coche il y a quelques journées de ça, lors de la confrontation contre Caen.
Ouais.
Depuis, on savait déjà que sur l'avant-dernière journée, ils allaient prendre une gifle les deux, que c'est contre Paris et Lyon. Donc voilà, Caen a su faire le boulot et prendre les points à ce moment-là et garder cette longueur d'avance. En tout cas, à mon sens, les dés sont jetés là.
Quand tu regardes quand même le championnat de France cette année, d'habitude tu dis si tu veux te sauver, il faut au moins 40 points.
Ouais.
C'est ce que tu dis. Aujourd'hui, tu as 7 clubs en dessous des 40 points.
On disait pas plus même que 40.
Au moins 40 points. Ouais. On disait au moins 40 points.
À l'époque, non, à l'époque, ouais, 40. Après, c'est devenu 38.
Il y a eu beaucoup d'années à 42, 43. Ouais,
voilà, 42, ouais. 43. Exactement. Après, c'est quand il y avait 3 descentes.
Et là tu imagines que t'as Bordeaux qui a 38 points.
Après, mais l'an dernier, le 15e.
On est en train de regarder ce match-là. Lens, ils sont carbo. Si par chance ils arrivent à passer, celui qui joue le barrage, le
Baranère de Ligue 1
est quand même largement avantagé.
Avec le retour chez le club de Ligue 1. Mais attention, c'est 3-3, ils sont peut-être moins fatigués. Bon, en tout cas, pour l'instant, il y a toujours un partout dans cette rencontre. Allons sur les stades, messieurs. Allons à Caen donc pour retrouver Christophe Lécuy à Dornano pour évoquer Caen Bordeaux ce soir 21h05. Salut Christophe.
Salut Jean-Louis. Bonsoir Willy. Bonsoir à tous.
Salut. C'est quoi l'état d'esprit à Caen? On se dit, allez, on va chercher Amiens, on y croit. Ou déjà sécurisons le barrage, c'est déjà énorme vu d'où viennent les Canets.
Ouais, d'où viennent les Canets, c'est exactement ce sur quoi a insisté Roland Courbis cette semaine, qui a évidemment amplifié. On connaît Roland, il a dit il y a un mois et demi, on était en Ligue 2, tout le monde le disait, y compris nos supporters. Donc maintenant, ce match, on doit le voir avec un esprit positif. On peut remonter en Ligue 1 puisqu'on était en Ligue 2 il y a un mois et demi. On peut remonter en Ligue 1, donc on est dans le même état d'esprit que Troyes, que Lens, qui espère aussi rejoindre l'élite dans quelques semaines. On insiste évidemment sur le ressort psychologique. On insiste sur la confiance qui doit habiter cette équipe canaise. Maintenant, entre nous, messieurs, voilà, est-ce que ces propos, ils vont être entendus par les joueurs? Quel sera l'état d'esprit du Stade Malherbe à l'entrée sur la pelouse de Dornano ce soir? Ça reste évidemment une question.
Oui, et la question, c'est l'attitude des Bordelais aussi. Messieurs, vous avez dû connaître ça dans vos carrières. Quand on joue une dernière journée sans enjeu, il se passe quoi? Forcément, l'équipe en face qui est plus motivée prend le pas, ou parfois on peut jouer libéré?
Ludo. Je ne sais pas si on peut jouer libéré, parce qu'à Bordeaux, il va y avoir les grands remaniements cet été. Donc, il y en a qui ont peut-être des choses à prouver à leur entraîneur avant que la saison s'arrête.
Ouais.
Paulo Sousa a bien dit il y a quelque temps que, peu importe les résultats, lui, ce qui l'intéressait, c'était de savoir comment se comportaient certains joueurs, et qu'il avait déjà une certaine idée en fonction des résultats de ceux avec qui il pourrait aller à la guerre l'année prochaine, ou sur qui il pourrait s'appuyer, et ceux sur qui il ne s'appuierait pas. Donc il y en a certains, il y a des jeunes, je pense, qui ont peut-être une carte à jouer, pour les décisions qui vont arriver cet été.
Ouais. Sur les compos, à quoi on doit s'attendre, Christophe? Des choses en particulier à savoir?
Alors, à Caen, vraiment, c'est du classique. C'est un avantage d'ailleurs pour Roland Courbis et Fabien Mercadal, c'est de disposer d'un groupe quasiment au complet. Djikou sera bien dans l'axe avec Grady, Farge et Deminguet, qui est la bonne surprise de cette fin de saison, sera aligné dans l'entrejeu. À noter que le jeune Moussaki devrait enchaîner une titularisation supplémentaire en Ligue 1. Il devrait en théorie être aligné à Enzo Crivelli sur le front de l'attaque. L'info compo à Bordeaux, vous le savez, c'est la première titularisation du jeune Poussin dans les buts, en lieu et place de Benoît Costil, qui lui sera sur le banc. Benoît Costil, formé à Caen, dont la famille est très impliquée au sein du club. Alors on n'a pas eu l'explication On pense qu'évidemment, c'est en même temps l'occasion de récompenser le jeune Poussin dans les buts et d'éviter toute interprétation qui aurait pu être sujette à polémique, évidemment, compte tenu de l'appartenance de Benoît Costil à ce club de Caen dans lequel il a été formé.
Très bien. Ben, merci Christophe. À tout à l'heure pour le match. Ce sera donc Caen-Bordeaux, le match crucial.
Si on peut même plus avoir de la famille dans le club adverse.
Ah oui, c'est terrible ça. Allons à Dijon, messieurs. Dijon-Toulouse. Timothée Mémon est sur place. Salut Timothée.
Salut à tous, salut messieurs.
On a bien entendu le journal moyen tout à l'heure. T'es le chanceux hein, sur le buffet là. Normalement, à Dijon, c'est régalé. Ouais. Hein.
C'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs. En tout cas, on est plutôt bien accueillis. Et ça fait plaisir. Mais globalement, on est très bien accueillis à Dijon. C'est pourquoi il y aura certainement de la déception pour beaucoup de journalistes s'ils devaient descendre ce soir.
Tu vois, vous l'utilisez tout à l'heure. Alors, Timothée, est-ce que finalement les Dijonnais vont pas être les plus libérés pour eux? Eux, ils ont rien à calculer, rien à perdre. Il faut gagner, compter sur les autres. Donc bon, ils vont pas être pris par la peur.
Ils sont pas pris par la peur, c'est une certitude, tu l'as dit, on le rappelle, Dijon a besoin de battre Toulouse ce soir et dans le même temps d'espérer une défaite du Stade Malherbe de Caen pour accrocher une place de barragiste. En clair, ils n'ont pas à calculer, ils n'ont pas à écouter à l'oreillette les résultats sur les omatchs, inutile d'écouter le multiplex pour eux depuis le banc de touche. Alors il y a quand même une vraie interrogation, c'est la capacité de rebond, de réaction de cette équipe de Dijon. Ça a souvent été pointé du doigt tout au long de la saison, le manque de caractère tout simplement des Dijonnais, il manque de véritables leaders, notamment durant la longue blessure de Florent Balmont qui devrait être titulaire aujourd'hui pour apporter justement un peu de niaque, un peu de grinta. D'ailleurs, il y a une phrase qui est forte, je trouve, cette semaine de Julio Tavares, l'attaquant de cette formation de Dijon a dit « on a que ce qu'on mérite et pas plus ». En clair, il est un petit peu résigné, il y a une sorte de résignation de la part des Dijonnais au regard de la saison qu'ils ont faite. Alors, ils savent que sur 90 minutes, ils peuvent peut-être sauver leur peau. Ce serait extrêmement important pour le DFCO qui a consenti d'énormes investissements sur le plan de la communication, sur le plan structurel avec un centre de formation tout neuf, avec une boutique toute neuve. Le stade a été refait, mais le stade appartient à la ville. Alors, s'il y avait des descentes en Ligue 2, ça n'aurait pas d'impact social sur les salariés du club sur une saison. En revanche, s'il devait rester plusieurs années en Ligue 2, évidemment, ce serait un petit peu la catastrophe industrielle pour le DFCO.
Willy, j'ai une question autour d'Antoine Comboiré. Parce que oui. S'il y a descente, est-ce que tu penses qu'il va garder l'étiquette de l'entraîneur qui, en gros, aura fait descendre deux clubs, quoi? Il a commencé à Guingamp, il finit la saison à Dijon. Ou est-ce que c'est un épiphénomène? Ça arrive quand on change de club
Je suis pas journaliste, c'est pas moi qui mets des étiquettes.
Ouais, mais non, mais après, même sans les journalistes, t'as pas collé dans le milieu du foot.
J'espère pas.
Mais c'est un risque quand même.
Bien sûr que c'est un risque, mais quand vous êtes entraîneur, vous faites un métier à risque, vous le savez. Ouais. Les gens, s'ils ont envie de retenir que dans la même année, il est descendu en théorie deux fois, et ben qu'ils retiennent ça. S'ils veulent pas retenir qu'il a fait monter des clubs, qu'il se fait virer quand il était numéro un, enfin il était premier au classement avec Paris. Si les gens ont envie ils retiennent ce qu'ils veulent. Ouais. Tu peux pas les empêcher, mais ça serait dommage. Ça serait dommage parce que jusque là, il avait plutôt une belle,
bien sûr,
une belle
bien sûr.
Cote.
Il restera pas si Dijon descend.
Forcément, il restera pas.
C'est ce qu'a dit le président. Ouais.
C'est juste que on veut pas parler de Comboiré, mais c'est vrai que la nomination de Comboiré à ce moment-là de la saison à Dijon avait été une surprise.
Mmh. Ouais.
Moi, j'avais trouvé que c'était une surprise, pas par rapport à ses compétences, mais par rapport au fait de dire voilà, vous avez un entraîneur qui était Dalloglio, qui depuis 2-3 ans pratiquait un certain jeu. Avec certains principes de jeu, l'effectif avait été construit en fonction de ça, et vous faites venir un entraîneur qui a des principes de jeu complètement différents, mais vous ne lui changez pas l'effectif.
Oui.
Et oui. À un moment donné, les joueurs, c'est pas des machines que t'appuies sur un bouton, ils vont jouer comme ça, t'appuies sur l'autre bouton, ils vont jouer différemment.
Ludo, j'ai pas toute ta carrière en tête là, mais t'as joué, t'es descendu déjà, ou t'as joué des maintiens. Quand t'es joueur et que tu joues ces moments-là, tu te rends compte vraiment que tu joues avec l'avenir du club.
T'as joué à Metz, Ludo, donc t'es descendu.
Oui. Oh ça y est. Là.
Mais non, mais Metz, vous montez, vous descendez, vous montez, aussi, vous descendez, vous montez.
Voilà, tu retiens que la descente. Alors il faut retenir aussi la.
Mais parce que Jean-Louis lui posait la question sur la descente.
Ouais. Oui, bien sûr.
Il lui posait pas la question sur la montée.
Du coup, tu te projettes là sur les sensations que tu avais à l'époque.
On est descendu.
Eh ben moi j'en ai fait une vraie dépression, hein. C'est chiant. Ah ouais. Et j'ai l'enfant du club là-bas. Ouais. J'ai commencé, j'avais 5 ans, donc pour moi ça avait une signification encore plus importante que pour les autres.
Ouais.
Donc j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, mais bon, j'ai eu la chance justement, c'est ça qui a lancé un peu ma carrière, puisque Francis de Tadeo avait repris l'équipe en deuxième division, et justement comme il y avait pu, on avait viré la moitié des joueurs qui étaient là, il a pu compter que sur les jeunes qu'il avait avec lui en CFA. Il nous a tous lancés et on est remonté la saison d'après.
Du coup, toi, tu t'en rendais compte, mais pas tout le monde.
Bah pas tout le monde, t'as des joueurs qui sont en prêt, t'as des joueurs qui
qui veulent partir,
qui savent qui ont fait une sale saison, que le club les gardera pas ou que voilà, c'est très ambigu. Donc eux ils se préparent déjà l'avenir.
Je me demande même pas moi si j'en ai fait une descente.
Toi, je pense que non. J'étais quasi
sûr que si. Bien sûr que si.
Avec qui?
Bah avec Saint-Étienne.
Ah, au tout début?
Eh oui, saison 95-96. Ah ouais. Non, 94-95 ou 80.
Oui, bon, allez.
C'était vers les 95. On est descendu.
Jean-Louis, c'est aussi la limite du nouveau marché actuel. C'est que les joueurs, ils restent jamais plus d'un an. Jamais. Ils ont pas le temps le temps de s'accrocher à des joueurs pour qui le club compte, qui restent 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça se fait plus, ça. Ouais, donc, forcément. Ça. Pour aller chercher des valeurs supplémentaires pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être, bah, tu peux plus compter sur grand monde.
95-96.
Voilà.
Ouais.
Bah, voilà.
Et tu l'as mal vécu?
Bah, moi, j'arrivais dans l'effectif, je suis arrivé au mois de février.
C'était pas ta faute, quoi.
Mais je suis Stéphano, les gars, je suis né à Saint-Etienne.
Ah oui, mais bien sûr, ça m'a fait une dépression. Toi, j'ai pas
fait une dépression. Non, j'ai pas fait une dépression parce que je sais pas pourquoi, parce que.
C'est solide.
C'est, voilà, non, mais peut-être plus insouciant. J'étais plus jeune, j'avais 17 ans, 18 ans, j'étais peut-être un peu plus jeune que Ludo. Voilà, c'était un mauvais moment à passer parce que c'était, le club était financièrement dans des grandes difficultés.
C'est la suite de ta carrière.
Mais le fait d'avoir joué un an en Ligue 2, pour moi, ça m'a apporté beaucoup sur la culture défensive. Parce que j'étais un défenseur, mais pas avec une formation de défenseur. Donc ça m'a beaucoup apporté.
Messieurs, terminons avec Timothée Mémon à Dijon pour Dijon-Toulouse. Donc ce soir, il y a des choses à savoir sur la compo. Tu nous as dit Balmont titulaire à Dijon.
Absolument. Vraisemblablement Balmont titulaire. Il y aura une équipe un petit peu similaire à celle de ces dernières semaines avec Sliti, Tavares, Saïd. Il y a plus d'incertitudes du côté du TFC. Et ça aussi, ça aura ses conséquences parce qu'il y a une équipe extrêmement jeune qui sera alignée avec notamment l'absence de Gradel, que l'on dit absent pour raison personnel. On sait que ces déclarations également il y a quelques semaines n'ont pas forcément plu, donc c'est une équipe un peu diminuée, on peut le dire, de Toulouse qui se déplace.
Ces déclarations quand il disait qu'il pouvait jouer au PSG, tout ça?
Non, ces déclarations qui disaient moi je vais réfléchir parce que j'ai besoin d'un club ambitieux sur le plan du jeu. Voilà.
Bah, il a quand même tenu le club à bout de bras offensivement cette année et que c'est normal qu'il se pose des questions et c'est normal qu'il ne veuille pas être le même à chaque fois.
Je peux retourner au buffet, c'est bon?
Ouais, c'est bon.
En tout cas, en 95-96, je sais pas si ça a été dur pour Willy, mais ça a été dur pour moi. Voilà, gamin dans les tribunes qu'on avait gros sur la patate.
Et t'en voulais à Willy?
Ouais. Pas spécialement.
Oui. Parce qu'il avait pas donné assez, si tu nous en parlais l'autre jour, là. Allez, merci Timothée.
Oh là 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 là.
Oh, ça va, on peut rigoler. Merci Timothée. Allons à Amiens. L'autre match qui concerne donc le dernier, qui concerne le maintien, c'est Amiens-Guingamp. Jean Baumel nous rejoint. Salut Djibo.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir Willy.
Salut Djibo.
Bonsoir à tous.
Est-ce que la Licorne va se mobiliser pour soutenir Amiens et donc aller chercher la victoire ce soir?
Ah, je te le confirme, ça va être un moment, bon, c'est un match très important et vraiment c'est l'appel du peuple, hein. La ville d'Amiens, le club, bien ils ont déjà organisé une marche, hein, qui s'est organisée tout à l'heure, départ à 18h du centre-ville direction le stade de la Licorne où il y a cette longue ligne droite, hein, où le bus des joueurs va passer, donc ils vont être encouragés par une bonne centaine, par un petit millier de supporters amiennois. On va battre le record d'affluence. Alors c'est vrai que ça va vite à faire, hein, du côté d'Amiens, jusqu'à que 12 400 places. Et bien on va y arriver, parce qu'ils ont rajouté quelques petites tribunes ces dernières semaines. Donc voilà, ils ont grappillé 500 places de plus. Et puis la chance pour Christophe Pélissier, c'est qu'il dispose de tout son effectif. Hein, il y aura vraiment un parc cornette, mais c'est pas un joueur titulaire habituel. Donc de ce côté-là, ça va bien. Bon, le petit hic quand même, c'est que Amiens n'a plus gagné depuis le 9 mars.
Oui, c'est ça.
Voilà, ils l'ont dit hier après-midi, qu'ils ont félicité Alexis Blin, le milieu de terrain. Voilà, ils vont ne penser qu'à une seule chose, c'est gagner, pour ne pas commencer à calculer avec le résultat et ce qui se passe du côté de Caen. Mais il va falloir marquer des buts, c'est un petit peu le point faible en ce moment, mais surtout gagner. Ça fait plus de 2 mois.
Willy.
Ouais, et Djibo, là, dis-moi, dans la salle de presse, t'as eu quoi à manger, toi? Parce que c'est le grand débat de la soirée.
À Amiens, on n'a pas à se plaindre, plateau de charcuterie, du bon fromage, bon, on a même un peu de vin, tu vois. C'est pas un pays de vin, c'est plutôt un pays de bière. Mais on nous fait plaisir, mais toujours, on dit bien sûr toujours avec modération, faut être sérieux, parce que sinon
faut qu'il se maintienne alors.
Ma licorne, s'il y a des buts ce soir.
Très bien Djibo, merci beaucoup. Ah oui, alors on attend la licorne, on évidemment. Tu as une petite licorne?
Ouais,
non,
quand même,
non, c'est que quand il y a des buts.
Oh.
Non, c'est que quand il y a des buts.
C'est la tradition.
C'est la tradition.
J'ai fait une fois en dehors, c'est pour l'anniversaire de Jérôme Bretagne.
D'accord, très bien. Tu as bien raison, ne dérange pas ta règle. Non, c'est l'anniversaire de personne.
Si je te le demande, Djibo, tu vas le faire.
Non, pas en dehors des buts. Non, il y a des traditions à respecter. Moi, je soutiens Djibo. À tout à l'heure, Djibo, pour le match.
Dommage. À tout à l'heure.
21h05, la course au maintien, bien sûr, et plein d'autres choses autour de cette dernière journée de Ligue 1. On continue de vous présenter les enjeux dans un instant. On retourne en Ligue 2 à 3 au Stade de l'Aube pour le barrage de Ligue 2. 3 Lens, Jordan Olivier.
64 minutes de jeu, toujours un partout entre l'Estac et Lens. Les Lensois qui jouent toujours à 10 contre 11, mais ce sont bien ces Lensois qui continuent d'attaquer et d'apporter le danger sur le but de Samassa. Les joueurs de Rui Almeida, à l'inverse, essayent de se projeter vers le but de Vauchou, mais c'est très compliqué, notamment dans l'animation offensive, peut-être là avec un corner de bas pour Lens. Il est bien tiré au second poteau, la tête s'est dégagée. Tarat essaye de reprendre, non, s'est dégagé finalement par la défense troyenne. 65 minutes de jeu, un partout entre Troyes et Lens.
Merci Jordan, et à tout de suite, on retourne sur la Ligue 1. On va évoquer les records pour Mbappé, les départs de Genesio, de Garcia notamment. Restez avec nous, ici c'est Willy, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, ici c'est Willy. Willy Sagnol.
Allez, 18h28, de retour dans Ici c'est Willy sur RMC. Jean-Louis, dans cette demi-heure, on va faire nos adieux à plusieurs personnages de la Ligue 1.
Exactement, ils reviendront peut-être après, mais en tout cas, dans leur...
Alors un au revoir, on va faire
voilà, un au revoir. Spécial Ligue 1 dans Ici c'est Willy, la dernière journée de Ligue 1 dans 1h30 en intégralité sur RMC, bien sûr, un grand multiplex. On a présenté l'enjeu principal, la course au maintien, on va s'intéresser aux différentes histoires de cette dernière journée. Mais en plus de nos avant-matchs, il y a la Ligue 2, le barrage entre Troyes et Lens, et les choses s'équilibrent, Jordan Olivier.
Et oui, le match est de plus en plus tendu, Jean-Louis, avec l'exclusion il y a quelques instants de Christopher Martin Pereira, le Troyen qui écope d'un deuxième carton jaune pour un vilain geste, hein, en tout cas une intervention un peu dure sur Guillaume Gillet. Ce n'était pas faute pour l'arbitre de la rencontre de l'avoir prévenu. Il l'avait prévenu déjà verbalement à deux reprises. Les Lensois vont donc jouer à 10 contre 10 face à cette équipe troyenne, avec un bon coup franc d'El Hadjiba qui est repoussé par cette défense troyenne. On a dit tout à l'heure que Jean-Louis Leca avait un peu manqué de sang-froid lorsqu'il s'était précipité de manière un peu virulente vers l'arbitre. On peut avoir ce même diagnostic avec Christopher Martins Pereira, qui a un peu perdu son sang-froid avec ce geste-là qu'il n'aurait pas dû. Il n'a pas maîtrisé son geste et du coup son équipe se retrouve à 10 pour finir la rencontre. Il reste 20 minutes de jeu, un partout donc entre l'Estac et le Racing Club de Lens.
J'ai l'impression que l'arbitrage de Monsieur Brizard, tu n'es pas très fan, Willy.
Oh non, pas du tout. Pas du tout, parce que...
Il n'y a pas expulsion pour toi, il n'y a pas deuxième jaune.
Non, il n'y a pas deuxième jaune, on revoit bien l'action au ralenti, il joue le ballon, il n'y a pas de semelle, il n'y a pas la semelle en avant, il met le pied. Alors après, peut-être qu'il y a eu une succession de fautes, mais on peut pas... Il met le jaune parce qu'il sait que ça fait deuxième jaune, ça fait rouge, parce qu'il sait qu'il a donné rouge à Lens, parce qu'il sait que le pénalty était un peu tendancieux, parce que on peut pas mettre ça sur des matchs aussi important pour la, dire la survie des clubs, parce qu'ils vont survivre, mais c'est quand même ultra méga important.
Tout à l'heure, on se posait la question s'il y avait la VAR. Après vérification, il n'y avait pas la VAR lors du match précédent entre le Paris FC et Lens, et a priori, donc il n'y a pas non plus la vidéo sur cette rencontre.
Parce que s'il y a eu la VAR, je ne vois pas comment ils auraient pu valider le pénalty. Ouais.
Un partout donc entre Troyes et Lens, il reste 18 minutes dans cette rencontre. Jordan, on te retrouve de plus en plus régulièrement, bien sûr, en arrivant à la fin de la rencontre. La Ligue 1, la dernière journée ce soir, la dernière pour Rudy Garcia, donc à Marseille. Et on va tout de suite au Vélodrome pour retrouver Florent Germain, Marseille-Montpellier ce soir. Salut Flo.
Salut Jean-Louis, salut à tous.
Salut les gars. Quel accueil a priori là pour Garcia pour la dernière?
Oh, je pense que du coup la pression est un peu retombée malgré tout avec l'annonce de mercredi et donc l'annonce de son départ, mais c'est vrai que le divorce a été consommé depuis assez longtemps. Je pense qu'il y aura, c'est les retours que j'ai de certains groupes de supporters, malgré tout quelques banderoles, probablement quelques sifflets. J'étais d'ailleurs à Lyon pour remplacer momentanément Édouard Jay qui était sur la finale de la Ligue des Champions, et il y avait eu ces tensions entre supporters lyonnais et Genesio, mais pour le coup il avait quand même eu droit à une certaine banderole pour lui souhaiter bon vent à Bruno Genesio. Là je ne pense pas que les virages du Vélodrome, en tout cas c'est pas les infos de Jay, préparent une banderole ne serait-ce que pour le remercier par exemple de la finale européenne. Donc voilà, le divorce était consommé et il risque de se terminer au mieux dans l'anonymat, au pire par encore quelques sifflets, même si ils ont un autre homme dans le viseur heures les virages, les supporters, les groupes de fans de l'OM, c'est aussi Jacques Anhiéro. Sauf que là, il y aura encore Franck McCourt à ses côtés et ce sera l'un des axes à surveiller de cette rencontre. À chaque fois ou presque que Franck McCourt est venu, il y a eu des tensions en tribune. C'est quelque chose qui touche beaucoup l'actionnaire majoritaire de l'OM. Donc on verra si les groupes de supporters marseillais, avec cette présence confirmée, hein, il est arrivé hier soir, il a beaucoup travaillé dans les coulisses du stade, à la fois sur la modernisation qui sera effectuée en termes d'infrastructure dans le Vélodrome et à la fois sur d'autres dossiers. Donc Franck McCourt est là. Est-ce qu'il sera un peu pris à partie par quelques banderoles ou quelques chants? C'est une possibilité. On aime bien parler au boss à Marseille et là, le boss est présent.
Ok, bon, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Est-ce que sportivement, il y a quand même de l'enjeu? Est-ce que atteindre cette cinquième place, le million et demi qu'il doit y avoir entre...
C'est ça, voilà. J'allais te chiffrer ainsi. C'est le match à 1 million d'euros et quelques centaines de milliers d'euros, effectivement. Oui, alors c'est sûr que Rudy Garcia disait, nous on veut finir cinquième parce que être comme ça dans le premier quart, c'est limiter la casse. Il a cité les exemples de Monaco cette saison, de Lille la saison dernière, en disant... Oui, on a l'OM, oui, on a des ambitions européennes, mais on ne pourra pas parler de saison exécrable ou en tout cas de saison catastrophique si on est cinquième. Ou alors ça voudra dire vraiment que l'OM est un club à part et que même quand on finit cinquième, on parle de saison catastrophique. Donc oui, cette cinquième place, elle peut être symbolique en ce sens. Je pense qu'elle fera dire à Rudy Garcia, dans sa com, il sera jusqu'au boutiste en comparant toujours le championnat de France avec d'autres pays ou la cinquième place en Espagne, en Angleterre. Autre est forcément qualificatif pour l'Europe. Donc on n'est pas à l'abri d'une petite phrase comme ça.
Donc en fait, l'OM joue sa saison ce soir.
Non, quand même pas, mais voilà, elle peut être symbolique cette cinquième place pour montrer au moins que l'OM n'a pas tout lâché, même si il y a beaucoup de démobilisation. Et d'après les retours que j'ai, ce sera aussi pour pas que pour Rudy Garcia. Hein. Une partie de son staff, au moins une partie va partir. Et d'ailleurs, ça se joue en ce moment ou dans ces toutes dernières heures. On va aller assez vite. Avec une petite partie du staff, au moins ses adjoints assez proches, Frédéric Bompard, Claude Tichot et il y en aura d'autres. Donc c'est une dernière pour beaucoup de monde qui sera assis sur le banc des remplaçants tout à l'heure.
Merci Flo.
À tout à l'heure.
C'est Winnie.
Ouais, mais non, mais cinquième, c'est catastrophique.
Oui, ça cousine, ce sera catastrophique.
C'est catastrophique, pas parce que c'est Marseille. Et que les attentes sont toujours élevées, c'est pas ça. Mais c'est par rapport aux investissements qui ont été consentis depuis 2 ans. C'est simplement ça. Si Marseille, il y a 3-4 ans, ils auraient fini cinquième. Le vieux port ça aurait pas tremblé. Ouais. Mais là, c'est par rapport aux investissements. Oui, c'est pas une bonne saison du tout.
Sur l'OM, il y a un nom par jour qui sort. Donc là, on va vous le donner. C'est le nom d'André Villas-Boas qui est sorti aujourd'hui comme possible remplaçant de Rudy Garcia. D'ailleurs, The Telegraph, un journal anglais, explique que. En tout, il y a déjà des discussions entre lui et l'Olympique de Marseille, sachant qu'il n'a plus entraîné depuis fin 2017. Il est à Shanghai.
Et surtout c'est après voilà, c'est un peu toujours la même chose. On s'excite un peu. Villas-Boas, il y a un nom, il y a
tout, on l'appelle.
Voilà, mais Villas-Boas, enfin voilà, il a été exceptionnel avec Porto, on se rappelle tous.
Ça datait, hein.
2011,
il s'est planté à Chelsea, il s'est planté à Tottenham, il a été plutôt pas mal à Zénith Saint-Pétersbourg, et puis s'est complètement planté en Chine. Fait beaucoup d'échecs.
C'est la DER aussi ce soir pour Jean-Louis Gasset. Alors là, ce sera vraiment la DER puisque il ne réentraînera plus derrière. Ça se passe à Angers Saint-Étienne. Pierre Yves Leroux est sur place. Salut Pierre-Yves.
Bonsoir à tous. Bienvenue. Les Verts, ils rentrent sur la pelouse. Tiens, à l'instant, sous le soleil de Raymond Coppard.
Très bien. Donc voilà, c'est ça l'enjeu, la dernière de Gasset. Et en face, bon, Angers qui veut rater une petite place.
Oui, exactement. Puis aller chercher peut-être le record de points de ces dernières années, c'est-à-dire 50 en championnat. Faire des adieux là aussi du côté des joueurs, puisque Stéphane Moulin sur les ondes de RMC d'ailleurs cette semaine a annoncé que Flavien Tay et Stéphane Bauken allaient partir. Ce sont les deux joueurs qui ont la cote, donc qui feront leur dernier match très certainement. Ce soir, et puis lui il fêtera sa prolongation, 2 ans de plus pour Stéphane Moulin. C'est l'entraîneur qui est en place depuis le plus longtemps dans tous les championnats européens. C'est quand même une performance, et puis c'est un gage de stabilité aussi du côté d'Angers. Depuis quelques années, ils arrivent à se maintenir assez tôt finalement dans ce championnat.
La dernière de Gasset, Woody, ça te parle, toi, le Stéphanois?
Comme beaucoup, moi j'ai envie de lui dire merci Jean-Louis, t'as ramené les couleurs vertes très haut.
Et alors, on va pas dire on t'en sera éternellement reconnaissant parce que le football va tellement vite, on oublie vite les gens. Mais par contre, c'est sûr que aujourd'hui, demain et après-demain, on te doit beaucoup.
J'aime bien quand tu dis merci Jean-Louis, ça fait plaisir. Pierre-Yves, bonne soirée.
Merci Jean-Louis.
Ah, je voulais juste ajouter, Gassé. C'est vrai que quand on regarde, mieux que quatrième place, faut remonter à 82 hein, pour les Stéphanois. C'était deuxième.
Ah oui,
c'est quand même pas mal.
C'est ça. À ce soir, Pierre-Yves, 21h05 pour le coup d'envoi de cette rencontre. Allons à Nîmes pour retrouver notre ami dépressif, Julien Landry.
Oh, il a rien mangé.
Salut Julien.
Ouais, il s'est fait un petit sac.
C'est terrible ça.
Je fais un petit bol d'air.
Comment tu fais? T'as mis de l'avance, remarque.
T'as mis ton sac de bonbons quoi?
Rien. C'est la catastrophe.
Jean-Jacques qui est au courant?
Je sais pas.
Il en parlerait la prochaine fois.
Exactement. Non, mais lui, dans les loges, ils ont le droit à manger dans les loges. Mais c'est vrai que nous avons rien. Bon, une terrible. Bouteille d'eau et parfois trois petites capsules de café qui se battent. Donc il faut courir pour arriver à avoir son café.
Ah, oui. Bon, le match ce soir, une belle fête à Nîmes, j'imagine, pour fêter la fin de ce championnat réussi.
La belle saison, ouais.
Ouais, il y aura un feu d'artifice à la fin du match, d'ailleurs, pour fêter cette plus que belle saison, hein, saison quasiment exceptionnelle pour les Nîmois, qui espèrent terminer sur un succès pour terminé 7e du championnat, ce qui paraît totalement fou pour Nîmes. Quand le calendrier était sorti en début de saison, tout le monde s'était dit recevoir Lyon pour la dernière journée, ça sera sûrement le match du maintien, c'est pas un cadeau. Mais finalement, ça sera le match de la fête pour ces Nîmois qui vont avoir réussi une saison exceptionnelle. 7e pour le plus petit budget de Ligue 1, évidemment, vous en avez parlé tout à l'heure pour la différence, 1 million d'euros, ça va être énorme dans les caisses nîmoises. Et puis c'est aussi l'occasion de faire des adieux à des joueurs qui vont partir. On va fêter Fethi Harek qui va prendre sa retraite, et Paul Bernardoni également, Fethou Mawassa qui sont prêtés, et sûrement probablement TJ Savagnier qui devrait disputer son dernier match sous les couleurs nîmoises. Il devrait s'engager peut-être chez le voisin Montpellierin. Ah bon? Il va y avoir des négociations qui vont s'ouvrir. Oui, TJ Savagnier veut rejoindre Montpellier veut récupérer son joueur formé. Voilà, va falloir s'entendre sur le montant du transfert, mais ça devrait se faire. Et puis évidemment, ça sera aussi la dernière de Bruno Genesio, 185e match ce soir avec l'OL, lui qui était revenu en 2006, 42 mois sur le banc. Beaucoup d'émotions évidemment pour Bruno Genesio, qui a déjà laissé entendre cette semaine qu'il lui restait trois possibilités pour la saison prochaine: rester à Lyon dans un rôle à définir, prendre des vacances, ou alors entraîner de nouveau. Et il se murmure qu'il a vraiment envie de continuer d'entraîner, donc il va falloir qu'il trouve un challenge. Mais voilà, ça sera la dernière de Genesio, sans Fekir, sans Lopez et sans Denayer. Lopez a préféré laisser ce match à Georges Lain, et voilà en gros pour les enjeux de la rencontre.
Très bien, merci Julien, à tout à l'heure, 21h05 pour Nîmes-Lyon, dernier match sur lequel on s'arrête dans Ici c'est Willy sur RMC, c'est Reims-PSG. Arnaud Valadon est sur place, salut Arnaud. Arnaud Valadon n'est pas là. Je me suis un peu emballé avec Arnaud Valadon. L'intérêt du match.
Allô, ouais, je suis là. Pardon.
Est-ce qu'Mbappé va battre ses records, Arnaud?
Parce qu'il le sait, bien sûr. Arnaud.
Mais c'est ça, en tout cas, l'enjeu du match.
Oui. Et oui, messieurs, c'est ça l'enjeu. 32 buts. Alors, il a déjà battu un record, la semaine dernière, puisque c'est le premier joueur français à marquer plus de 32 buts en championnat depuis 1966. Voilà, c'est un vieux record, mais il pense à un autre, c'est d'égaler et en tout cas de partager le fameux soulier d'or qui récompense le meilleur buteur européen sur une saison. C'est actuellement Lionel Messi, il est à 36, Mbappé est à 32, donc il doit mettre un quadruplé. C'est la grande question, est-ce qu'il va pouvoir mettre ses 4 buts à Reims avec une défense remaniée. Il y aura notamment pas Ingles ni Foket, donc 50% de la défense rémoise sera absente aujourd'hui. Puis surtout voir la réaction de Kylian Mbappé après sa sortie qui a fait beaucoup de bruit lors des trophées UNFP dimanche. À voir donc sur le terrain Auguste Delaune, guichet fermé, 22 000 personnes.
Très bien, merci Arnaud. Reims PSG, 21h05. Je vous rappelle qu'il y a toujours un partout entre Troyes et Lens. La fin de match en intégralité dans Ici c'est Willy après les paris.
Les paris RMC.
PMU, que les meilleurs gagnent.
Christophe Payet est avec nous, notre expert en paris sportif.
Salut Christophe.
Bonsoir monsieur, bonsoir à tous.
Alors on y va, Dijon-Toulouse pour commencer.
On s'intéresse au maintien.
Ah bah oui, bien sûr.
De toute façon, il n'y a que ça d'intéressant.
Bon, Ludo nous a dit tout à l'heure, toutes les équipes à domicile gagnent, rideau.
D'accord. Bah écoute, oui, dans ce cas-là, ça voudrait dire que rien ne changerait au niveau du classement et que Caen se retrouverait barragiste. Alors justement, ce Caen Bordeaux, les Normands doivent gagner pour espérer finir 17e si Amiens perd contre Guingamp. Ou alors il gagne par deux buts d'écart, et dans ce cas-là un nul d'Amiens sauverait Caen. C'est 1,40 la victoire des Canets. 4,50 le match nul et 9 la victoire de Bordeaux qui reste sur 6 défaites d'affilée. Donc une 7e arrangerait bien les Normands. Moi je vais vous proposer pour faire grimper cette cote, pourquoi pas le 2 buts d'écart, parce que ça serait très intéressant pour les hommes de coach Courbis, de 0,5, mais j'en ai un qui est mieux à mon avis, c'est le but de Fajr. Parce qu'il a marqué lors des deux derniers buts à domicile.
Les derniers matchs.
Et en plus de ça, il a mis 5 buts. Sa cote est à 3,80 avec la victoire de Caen. Alors que Ninga, par exemple, qui a mis un but de plus, la cote est seulement à 2,25. Donc je pense que c'est intéressant en termes de stratégie de Paris, le rapport cote-but marqué. Mais je crois que Willy n'est pas tout à fait d'accord avec moi sur ce match.
Non, je suis pas tout à fait d'accord. Je vois un match nul.
Ah ouais.
Parce que quand c'est pas une équipe emballante, je dirais offensivement, il y a pas énormément d'occasions. Bordeaux, il y a le retour de Pablo, il y a Bordeaux, les rares qualités de Bordeaux dans cette fin de saison se situeraient peut-être plus côté je dirais défensivement, même si ça va être un jeune gardien de but.
Pas un poussin, mais c'est son nom.
Voilà. Mais attention, il est passé par les équipes de France de jeunes, c'est un très très bon gardien. Ah oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je vois un match nul.
D'accord, très bien.
Donc s'il y a match nul,
oui,
il faut que Dijon gagne par 6 buts d'écart face à Toulouse.
Ouais, bon, ça, non.
Ce qui est...
Je n'y crois pas trop.
Fort improbable.
Okay. Donc impossible. Bon, pour reprendre l'expression chère à notre ami Christophe Dugarry, c'est impossible.
Voilà.
Bon, donc ils vont gagner 6-0.
Pour reprendre. Non, parce que Lucas est parti à Tottenham, c'est pas possible.
Alors 1,50 la victoire de Dijon, 4,10 le nul et 5,70 la victoire de Toulouse. Donc Dijon doit gagner, espérer une défaite de Caen face à Bordeaux pour accrocher les barrages. Dijon ne pourra pas faire mieux que les barrages. Ouais. Moi, je vous propose la victoire de Dijon avec les deux équipes qui marquent, c'est coté à 2,70 parce que Dijon a gagné ses deux derniers matchs à domicile contre Rennes et Strasbourg, mais à chaque fois a pris un but et c'est vrai que les Dijonais malheureusement prennent beaucoup trop de buts. Alors je pense qu'ils se sont réveillés un petit peu trop tard et qu'il faudra vraiment un miracle du côté de Dornano pour que Dijon accroche les barrages, mais je pense qu'ils feront le job.
Willy, victoire de Dijon.
Oui.
D'accord.
Pour bien finir la saison, pour parce que Toulouse a plus grand chose à jouer, parce que Toulouse en plus Gradel n'est pas là, parce que voilà, pour et puis aussi 5, c'est gagner le match pour aussi peut-être match. Se donner encore plus de regrets.
La victoire 6-0, c'est combien ?
Eh ben écoute, je l'ai pas noté, mais je pense qu'elle est aux alentours de 100.
Très bien, merci Christophe. rmcsport.fr pour retrouver tous les conseils de la
Dream. Bonne soirée, bon match.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Le score et le temps qu'il reste entre 3 et Lens, sachant qu'on fait l'intégralité de la fin de match juste après, Jordan Olivier.
Un partout entre les deux équipes, Jean-Louis, il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. Les deux équipes jouent à 10 contre 10.
Et on revient très vite pour la fin de la rencontre, à tout de suite. La question kiné du soir, François.
Évidemment, on avait Rai dans Ici c'est Willy. Oui. Événement. Donc la question, c'est quel est pour vous le plus grand joueur brésilien de l'histoire du PSG ? Alors, j'ai proposé 4 noms. J'aurais pu en proposer plein d'autres. Malheureusement, c'est ma question, donc j'ai fait ce que je veux. Rai, Neymar, Ronaldinho, Thiago Silva. Voilà les 4 noms que j'ai proposés.
Neymar, Ronaldinho, Thiago Silva.
Et c'est assez écrasant. Rai, 48%. Ronaldinho est derrière 40% et ensuite alors Neymar 8% et Thiago Silva 4% seulement.
Déjà Thiago Silva, c'est parce que c'est un défenseur, donc on n'élit jamais les défenseurs. Ronaldinho, c'est normal, même s'il n'est pas resté très longtemps, parce qu'il a vraiment, c'était une des premières fois où on voyait ce genre de magicien qui était là. Mais Rai c'est
pour toi c'est le numéro 1.
C'était un homme aussi, tu vois, c'était pas juste un très bon joueur, c'était un homme qui a... Personne ne critiquait Rai. Rai n'était pas critiquable sur un terrain, c'était pas possible. Il était bon, il était beau à voir jouer, il était élégant, il était gentil, il avait tout.
Rai en tête, c'est normal. Moi, je trouve que Thiago Silva, c'est quand même un peu dur.
Ouais, 4% seulement. Quand
même, mais c'est un défenseur. Mais je suis d'accord.
Mais moi, je dis juste que c'est dur.
Je suis 100% d'accord, mais c'est normal. Les gens n'élisent jamais les défenseurs. Les défenseurs, ça intéresse personne.
Et après, Ronaldinho a pas fait plus que Neymar. Hein.
Non, c'est vrai.
Donc,
Mais bon, je crois qu'il y a.
Mais t'as des choses qui ont marqué. Ses buts au Vélodrome, c'est des choses qui ont marqué, les esprits.
On va poser la question pour Neymar la saison prochaine, peut-être, pour avoir un peu plus de pourcentage. Après, on aurait pu citer aussi Ricardo,
Valdo,
Leonardo. En une saison, il a fait pas mal aussi, et puis en plus, il était manager du club.
Lucas.
Lucas moins. D'un coup là.
Lequel?
Lucas Moura, qui a mis un triplé là, ton ami.
Marc Pigos, Néné, Aloisio.
Ah oui, bien sûr, c'est vrai.
Alex,
c'est vrai.
Allez, Alex Alvisio,
les bonnes Stéphane Souza, magnifique. Allez-y, compte Twitter d'ici chez Willy pour votre.
RMC, 18h-20h, ici c'est Willy. Willy Sagnol.
Allez, 19h49, c'est la dernière ligne droite d'ici c'est Willy sur RMC. Et on continue, Jean-Louis, à suivre ce pré-barrage entre Troyes et Lens.
Exactement, on est dans le temps additionnel désormais, un partout, Jordan Olivier.
4 minutes de temps additionnel, déjà 30 secondes de passé, une action un petit peu litigieuse, messieurs, avec une incursion de... comment s'appelle-t-il, j'ai perdu son nom, Fortuné, l'ancien Lensois, justement, qui a perforé la défense, qui s'est écroulé dans la surface. L'arbitre de la rencontre, lui, n'a pas désigné cette fois-ci le point de pénalty. On rappelle, hein, les deux équipes qui jouent à 10 contre 10, le match qui s'était emballé après l'exclusion de Martins Pereira à la 67e. Ça s'est un petit peu calmé maintenant. Il ne s'agirait pas pour Lens ou pour Troyes d'ailleurs d'encaisser un but dans le temps additionnel. Cela pourrait être compliqué pour revenir derrière. Duverne qui va jouer avec son capitaine Gilles et qui va écarter de l'autre côté avec Mendy, le latéral gauche très offensif depuis le début de la partie. Il centre, c'est très bien dégagé par Tavares, dégagé très bien, faut vite le dire, puisque c'est dégagé en touche et les Lensois prennent leur temps pour effectuer cette touche. Et Steven Fortes qui va effectuer la touche.
On rappelle donc que Lens se dirige vers une deuxième prolongation en trois jours, puisque le pré-barrage déjà s'était terminé au tir au but. Et donc là, bon, après, vu le scénario, ils seraient peut-être déjà satisfaits vu qu'ils ont joué longtemps à 10 contre 1.
Mais on sent quand même que c'est compliqué hein, pour ces Lensois. Attention, Kevin Fortuné sur le côté, il va centrer. Oh là là, il est trop juste. Il est trop juste, Ravelesson, pour mettre son pied, le ballon qui va sortir en touche, mais très belle occasion, en tout cas situation chaude pour les Troyens. Effectivement, deuxième prolongation en moins de trois jours qui arrive pour les Lensois. Cela ferait 240 minutes en moins de trois jours. Et je vous disais tout à l'heure que les Lensois avaient du mal physiquement. On les voit pas mal avec les mains sur les hanches. Pas mal de joueurs également qui se rapprochent du banc de touche pour s'hydrater. Et il semblerait que ce sera compliqué hein, cette prolongation pour les Lensois. Mais tout est possible. Avec Duverne maintenant à l'attaque pour cette équipe sans heure qui va centrer. Très bon centre de Duverne qui passe devant le but. Intervention de Samassa. Il n'y avait personne. Pas d'attaquant Lensois. En tout cas, Samassa qui va pouvoir relancer pour Troyes. Cette équipe troyenne qui est un petit peu décevante, je dois le dire, depuis le début de cette rencontre. Il restait sur 14 matchs sans défaite en Ligue 2. Et là, offensivement, ça reste très, 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 très faible, messieurs.
Ouais. Oui, c'est vrai que les Troyens sont décevants. On rappelle aussi que le vainqueur de cette rencontre donc fera le barrage contre le 18e de Ligue 1.
Enfin, la semaine prochaine, oui.
Avec le retour.
Ce qui est décevant, surtout, c'est un match pour les barrages, pour peut-être revenir en Ligue 1, et le stade est même pas plein.
Ouais. C'est ça, Jordan.
C'est triste.
Ah, il est pas totalement plein. On annonce en tout cas 15 000 spectateurs, dont 3 500 Lensois, et ce sont bien les supporters Lensois qui donnent de la voix depuis le début de la rencontre. Le match est terminé, un partout. On va donc se diriger vers les prolongations. On rappelle les buteurs, c'est le Lensois Gomis qui avait ouvert le score à la 3e minute de jeu. Pelé a égalisé sur pénalty à la 43e. Deux exclusions dans cette rencontre, Jean-Louis Leca à la 40e et Martins Pereira côté troyen à la 67e.
Reste avec nous, Jordan, hein, pour nous raconter ce qui se passe sous tes yeux.
Le stade pas plein, c'est quand même une capacité de 20 000, donc 15 000 si c'est ce qui est annoncé.
Mais tu joues
20
000, pour remonter en Ligue 1, pour jouer plein,
ça, bien sûr, ça vendredi à 18h.
Mais non,
la programmation qui est pas bonne.
Non, je suis pas d'accord.
Tout le monde doit poser une journée.
Non, mais je parle pas d'une journée.
Plein, les gens travaillent, les gens bossent.
Moi, je suis d'accord avec toi, Willy. Ça doit être plein pour un match comme ça.
Il faut revoir cette programmation à 18h un vendredi. Pourquoi on fait jouer ce match à 18h un vendredi?
Non, c'est vrai que
pourquoi pas un samedi?
La réponse est
pas le samedi soir.
Écoute, tu sais quoi, on trouvera alors toujours des excuses. Joue le même match de barrage en Allemagne, tu vas voir. T'étais voir hier le match Stuttgart-Berlin.
Ouais. Bah, je suis pas allé parce que j'ai pas.
Non,
le temps
mais t'as regardé.
Mais oui,
le stade complet.
Oui, il cherche pas d'excuses. Mais c'est vrai quand même que là, 18h, c'est un
peu. Même si tu fais ça à 3h du matin à Lens, le stade il sera plein.
Oui, Jordan.
Si je peux me permettre, messieurs, le match était initialement prévu à 20h45 ce soir et une directive du ministère de l'Intérieur a demandé que la journée de Ligue 1 qui devait se jouer samedi se joue vendredi, d'où le fait que ce match ait été avancé à 18h un vendredi.
dans ce cas, ils auraient pu le mettre samedi.
Voilà,
un seul match, ce serait passé. Ils auraient dû rien inverser, c'est tout. Mais bon, comprends ton coup de gueule, Willy.
Ouais, c'est un petit là.
Ah ouais,
un petit. Merci.
C'est chez toi. Qu'est-ce qui se passe là sous tes yeux, Jordan? On imagine que les joueurs sont pas retournés au vestiaire là. Hein.
Non, les joueurs sont restés sur le terrain avec les Lensois qui se prennent par les épaules. Philippe Montagné au milieu de ces hommes qui distillent ses derniers conseils, sûrement en train de leur dire qu'ils l'ont déjà fait il y a 3 jours. Ils peuvent réitérer cette nouvelle performance et aller chercher cette qualification. Et du côté de Troyes, les organismes sont aussi éprouvés. Là, on voit pas mal de joueurs avec une bouteille d'eau dans la main. Rui Almeida, également le technicien troyen, au milieu de ces hommes qui distillent ses derniers conseils. Cette prolongation s'annonce intéressante puisque les deux équipes, physiquement, commencent à pêcher. On l'a bien vu en fin de match.
Vous imaginez la Lens se qualifie, un petit Lens-Caen avec Montagné qui retrouve coach Courbis.
Ah ouais, bien sûr.
Après deux prolongations, ouais. Après 95 matchs, après bravo, enfin voilà, ça sera difficile en tout cas pour l'équipe de Ligue 2 qui va jouer le barrage. Ouais,
Jordan, on te retrouve dans une seconde pour la prolongation, bien sûr, autour de cette rencontre, ce barrage de Ligue 2 dans le RMC Football Show spécial Ligue 1 avec Christophe Cessieux. Oh, salut Christophe.
Oh, c'est la fête.
Salut Christophe.
C'est la fête, les gars.
Tu vas te régaler là.
38e dernière journée de Ligue 1.
Et tu vas y arriver.
Rendez-vous compte, il y a plus beaucoup d'enjeux, mais il y en a quand même quelques-uns. Ouais, il y a beaucoup trop de monde.
Hein.
Je sais plus où ils sont, les mecs. J'ai tout fait confondre. Mais bref, on va tenter de se régaler. Non, on va se régaler certainement avec des enjeux. Notamment pour le maintien. Et notre coach Courbis, c'est ce qui va se maintenir à votre avis? Faites vos jeux.
Barrage. Nous on annonce barrage.
Ouais, barrage. Ouais.
Barrage.
Non, enfin, je pense qu'il y a une petite chance quand même.
Barrage.
Je pense que Guingamp, ils peuvent faire nul.
Ouais, c'est 2-0.
Tu prévois la même chose que t'as prévu la semaine dernière. Qui sait qui joue contre Saint-Etienne la semaine dernière? À domicile, Nice.
Ouais, je sais plus.
Ouais, que tu m'as sorti encore un but de je sais pas qui.
De Nordin.
Voilà.
Eh ben, ils n'en marquent plus, genre.
Bah non. Mais Saint-Etienne a gagné, voilà. Et le raz-de-marée stéphanois, tu l'as pas vu venir.
C'est vrai. Moi, je suis nul en prono, oui. Bah, si c'est ça la conclusion, je suis d'accord.
Ce n'est pas ça.
Maître Willy, roi des pronos.
Ah oui, bien sûr, il a vu le triplé de Lucas en Ligue des Champions, on s'en rappelle.
Bon, il restera
parti pour c'est le parti. RMC Football
jusqu'à 23h dans un instant.
L'after dans la foulée, grande soirée Ligue 1 donc. Willy,
allez, magnifique, il y a une magnifique soirée à tous.
Ciao.